So just a goodbye. We love you. We will be back in some form.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President. You.
Depuis maintenant à peu près une heure, Joe Biden est officiellement président américain. Il va occuper le bureau ovale, en théorie, pour les quatre prochaines années. Puis juste avant, vous avez entendu, Jonathan, on a entendu Donald Trump. On écoutait ensemble son discours ce matin à ses partisans. Puis clairement, il entr'ouvre la porte, laisse la porte ouverte pour un retour. Est-ce que ça va être un retour en politique, dans les médias, sur Twitter, réseaux sociaux, etc., etc.? On verra. Puis il a quitté sur YMCA, hein? Tu sais, la dernière chanson, là... relié à une de ses sorties publiques, ça a été YMCA tantôt. Donc, ça s'est passé. Oui, c'est ça. Ben, coudonc. Mais donc, officiellement, Joe Biden, qui est devenu le 46e président des États-Unis. Il n'a pas fait la danse, là, les signes là, avec les bras. Là, comme on l'a déjà vu faire ça, par contre, Donald Trump. Mais bref, donc, Donald Trump qui retourne en Floride après 4 ans donc à la présidence des États-Unis. Pour parler de ce qui se passe, on va les retrouver. Elle est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Chroniqueur également sur les ondes de Cogeco, Valérie Beaudoin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Valérie, je ne sais pas si tu as pu regarder tantôt le discours de Joe Biden. Moi, je l'ai pas vu, mais hier, moi, j'ai trouvé qu'hier, il a son hommage aux victimes de la COVID-19 hier à Washington. J'ai trouvé ça très émouvant, très saisissant. Déjà, on sent qu'il veut donner le ton à une présidence très, très différente de celle de Trump.
Oui, et ça paraissait dans son discours, justement, son premier discours comme 46e président des États-Unis tout à l'heure. Il a dit, il a commencé en disant, parmi les premiers mots, la démocratie a triomphé. Et il a rappelé que la présidence, c'est un serment sacré. Donc, des mots que j'ai retenus de ce qu'il a dit, et ça veut dire un peu, ça va ressembler à quoi? Il a parlé de dignité, de respect, de calmer les esprits. Il a dit aussi que les choses peuvent changer. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a une vice-présidente américaine, première femme, qui est vice-présidente, et qu'il allait être, bien sûr, le président de tous les Américains, comme il le répète depuis des semaines, et qu'il y a peu de gens dans l'histoire du pays qui ont connu plus de défis. Il fait bien sûr référence en ce moment, non seulement aux divisions, à la crise financière, la crise sanitaire. Il y a du pain sur la planche, Joe Biden, dès aujourd'hui, ça je peux vous le dire.
Donc, dans ses priorités, il n'y a pas de grandes surprises. Là, t'en as mentionné quelques-unes. Il a parlé également, je pense, d'environnement, bon, toute la pandémie, tout ça. Mais est-ce que on sent qu'il y a des éléments qui vont être davantage priorisés que d'autres dans les premiers jours de sa présidence?
Je pense que sa priorité, c'est assez symbolique, c'est de défaire ce que Trump a fait. Je vais aller ça clair, net et précis, parce que vous allez le voir, par ses premiers décrets, on rejoint l'accord de Paris. On rejoint l'Organisation mondiale de la santé. On oblige les masques dans les endroits où c'est juridiction fédérale. Ce qu'on appelait le Muslim Ban, quand on empêchait d'entrer au territoire des gens issus de pays à majorité à confession musulmane, c'est terminé. On arrête la construction du mur. Si vous voulez parler de symbolique, c'en est une. Écoutez, il y en a plein comme ça, justement. Pour le Canada, on n'aura plus le contrat du pipeline, pardon, Keystone. C'est terminé aussi. Donc, on voit la place de l'environnement, on voit la place au niveau de l'immigration et aussi au niveau de la pandémie, ça paraît déjà dès aujourd'hui.
Question que beaucoup de gens se posent, Valérie, puis j'aimerais ça avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu penses que Joe Biden va faire les quatre années complètes du mandat où, tu sais, moi, je me dis, ouais, ça pourrait peut-être être tentant à la fin du mandat de laisser sa place à Kamala Harris pour lui donner une poussée, si on veut, pour un autre mandat. Toi, comment tu entrevois les quatre prochaines années là-dessus, l'avenir de Joe Biden?
Écoute, je ne sais pas s'il y aura un problème de santé ou autre qui va l'obliger à terminer d'avance, mais à mon avis, ce qui est particulier, c'est que le président peut décider jusqu'à quel point le vice-président a du pouvoir, a des mandats, a des responsabilités. Donc, ma perception, c'est qu'il va donner beaucoup de responsabilités à Kamala Harris, qui lui va prendre un peu le siège passager par moment. Donc, il va être lui, bien sûr, la figure, le président. Mais je serais pas surprise que ce soit justement Kamala Harris qui va négocier avec des pays comme le Canada, qui fasse des voyages à l'étranger aussi, qui soit la représentante des États-Unis, qui soit là pour négocier avec les sénateurs aussi. J'ai l'impression qu'elle va avoir beaucoup de pouvoir dans cette administration-là. Et justement, pour lui faire un peu la place pour dans 4 ans, parce que, à mon avis, elle va vouloir se présenter à la présidence dans 4 ans. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais je pense pas mal que oui.
Oui, j'ai pas l'impression que tu te trompes. Valérie, il y a une expression anglaise qui dit « Keep your friends close, but keep your enemies closer oui. ». Jusqu'à quel point Joe Biden doit se soucier des pressions qu'il peut avoir dans son propre parti? On pense au Parti oui. républicain, mais les démocrates, l'extrême gauche un peu du parti, jusqu'à quel point il risque d'être des fois limité ou confronté avec la dynamique de son parti?
C'est un vraiment bon point parce qu'on l'oublie. Hein. On parle beaucoup de comment il va gérer les républicains, mais comment il va gérer les démocrates, parce que les démocrates sont moins, comme je peux dire, ils se chicanent plus en famille que les républicains. Donc, on se déchire pour certaines choses. Et là, je pense entre autres au dossier de la santé. Parce que, justement, l'aile plus à gauche du Parti démocrate veut l'assurance maladie universelle. Hein. L'assurance maladie pour tous que les autres veulent pas. Donc, est-ce qu'ils vont même voter auprès de Joe Biden quand il va pousser pour un projet de loi pour dire on fait un Obamacare 2.0 amélioré, mais qu'on va pas assez loin. Le remboursement de la dette étudiante, et là, je pourrais continuer de vous en nommer comme ça. Je pense qu'avec les mesures environnementales, il fait plaisir à beaucoup de gens plus à gauche, mais il va avoir quand même des difficultés à gérer des gens au sein même de son parti, parce que l'avance qu'ils ont à la Chambre des représentants, la majorité est plus mince qu'elle l'était. Donc, il faut vraiment avoir l'appui quand même des démocrates pour passer plusieurs choses.
En tant que chroniqueur et spécialiste de la politique américaine, Valérie, est-ce que tu vas t'ennuyer un petit peu de Trump? Tu sais, sois honnête, là. Vas-tu t'ennuyer un peu des, tu sais, du côté, tu sais, c'était pas plate, là, les 4 dernières années. Tu penses que ça soit plate avec Biden à Maison-Blanche?
Je veux dire, c'est difficile de prendre des vacances avec Trump. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Mais Trump, ça a été le plus grand créateur d'emplois pour les journalistes et les gens dans les médias. Ça, je peux vous le garantir. Fait qu'à ce niveau-là, oui, on va s'ennuyer. Mais je pense qu'on va être content de parler d'autres choses que qu'est-ce que le président a tweeté. Ou qu'est-ce qu'il a dit.
Mais la haine des médias aussi, sérieusement, ça devenait lassant là, d'entendre parler toujours de ça.
Ah non, c'est ça. Puis là, c'était difficile. C'était toujours aussi, on ouvre CNN, on fait juste parler contre Donald Trump. Il y avait vraiment un climat qui n'était pas sain. Et là, ce qu'on va voir, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voir que Fox va reprendre son rôle de critique de ce qui se passe à la Maison-Blanche. Donc, on va revenir un peu à ce qu'on avait sous Barack Obama il y a 4 ans. Et la relation avec les médias, à mon avis, ça va être un peu au beau fixe comparé à avant, parce que vous venez de le dire, là. On a passé 4 années à se faire dire fake news. Je pense pas qu'on va entendre ça de la bouche de Joe Biden pour les 4 prochaines années.
Merci beaucoup, Valérie.
Ça me fait plaisir.
Merci, au revoir.
Merci, bye-bye.
Valérie Beaudoin, donc, de la chaire de recherche, de la chaire Raoul d'Endurant. Ça, là, s'il y a une affaire, je m'ennuierai pas de Trump, là. C'est le discours éternel, continuel, lassant, endormant sur les médias, c'est tout de la merde. Ça, là, c'était... Parce qu'on dit que ça a été divertissant, tu sais, les 4 années de Trump. Ce qui est vrai, tu sais, il y a eu des bouts. On a ri. Tu sais, quand il a calé, par exemple, du McDo, puis du Wendy's, puis du Burger King. Tu sais, il y avait des côtés, des fois, il me faisait rire. Mm-hmm. Mais le côté le plus plate de Trump, c'est cette guerre-là inutile et plate contre les médias. De répéter jour après jour, les médias sont ci, les médias sont ça, puis les lamestream media, puis il y en a qui ont traduit ça à merdia ici. Ça, un moment donné, on avait compris. On comprend que tu te sens maltraité par les médias, c'est correct. Le message est passé, mais encore, on peut-tu passer à d'autres choses? Y a-tu une autre étape?
C'est ça. Puis c'est qu'à un moment donné, peut-être que certains trouvaient ça divertissant, mais il y avait... Puis je te jure, Jérôme, je pèse mes mots. Là. Je veux pas tomber dans l'exagération, mais c'est qu'à un moment donné, ça devenait dangereux. La haine que ça a amené envers les médias... Imaginez, aux États-Unis, c'était le pire endroit... Mais même ici au Québec, à quel point ce discours-là est repris, à quel point il y a des gens qui se sont appropriés ce discours-là, dans la population comme ailleurs, qu'à un moment donné, là, cette violence verbale-là, que tu te demandes toujours à quel moment elle va se transférer en violence physique, et c'est très palpable.
Oui.
Tu sais, j'ai devant moi, puis c'est drôle, tantôt j'ai fait un tweet en disant que je poussais un soupir de soulagement à ce que Joe Biden soit enfin élu. Tu sais, il y en a un qui m'écrit... Va chier le charognard.
Ben, wow.
Tu sais, puis ça, c'est des genres de commentaires qu'on reçoit régulièrement. Puis là,
moi, j'ai reçu des ta gueule hier sur Twitter. Ta gueule.
Ah, c'est ça. C'est que le niveau de violence, d'agressivité est à un niveau incroyable. Puis ça, ben, ça part beaucoup de ce qui s'est passé il y a 4 ans. La montée en puissance de Donald Trump, le discours, cette rhétorique-là que les médias sont tous avertis. Puis j'insiste, là, est-ce que les médias sont parfaits? Absolument pas. Je pense qu'au quotidien, toi et moi, on est capable de dénoter des fois des dérapages, des excès de sensationnalisme,
mais,
du focus qui est mis au mauvais endroit.
CNN peu importe le média. Régulièrement.
Puis CNN, c'était devenu une obsession.
Il y a fond de maladie, Trump.
Mais bref, moi, ce niveau d'agressivité-là qu'il a entraîné. Là, en André, je trouvais plus ça divertissant. Enfin.
Non, ça ne l'est plus. Ça devenait plate. Ça devenait redondant. C'est beaucoup du radotage. Le radotage contre les médias. Puis, tu sais, CNN, Don Lemon est une caricature de lui-même. J'écoutais même les commentateurs ce matin. Tu sentais vraiment qu'il était content. Mais CNN, c'est quotidien. Mais il y a encore des bons éléments à CNN. T'sais. J'écoute Wolf Blitzer. J'écoute Anderson Cooper. Je pense qu'ils font une bonne job. Les bulletins d'infos aussi à CBS, NBC, ABC, en début de soirée aux États-Unis, font un très, très bon travail aussi. C'est encore là, c'est mentir de dire que tous les médias sont pourris. 60 Minutes à CBS, pas personne qui peut me dire que c'est du fake news puis du lamestream media. Là. Ça n'a aucune espèce de base de vérité là-dessus.
Et tourne ta critique, si tu critiques les médias, tourne ta critique vers Fox News puis AON puis toutes ces niaises.
Ben, même à Fox News, j'écoute des fois les bulletins d'information de jour. Là. C'est pas tout le temps mauvais non plus. Tout n'est pas noir ou blanc.
Non, c'est ça, mais c'est ça, je te dis, mais s'il y a de la merde dans les médias, il y en a dans tous les médias.
Il y en a partout, exactement ça. Hannity, je m'excuse, c'est de la cochonnerie. Je l'écoute pour me divertir des fois. Je sais qu'il y a 2 millions de personnes qui regardent ça. C'est de la cochonnerie ce qu'Hannity fait. Par contre, je suis capable de dire qu'il y a des bulletins d'infos en milieu de journée à Fox News qui font un job, qui sont intéressants, qui sont bons.
Tu sais, Joe, tu dis que ça commençait à venir dangereux, puis on attendait comme le point de... Hey, il y a eu des chars de TVA incendiés.
Oui, dans le temps des
fêtes. Au Québec, il y a eu des tours de 5G incendiés au Québec. Il y en a du monde. Il n'y a jamais eu, en fait, si on se dit les choses en... nos vérités entre quatre yeux, il n'y a jamais eu autant de gens déséquilibrés que là.
Ça, c'est clair.
OK?
C'est clair.
À toutes sortes de niveaux, le spectre de déséquilibre
est
assez loin.
Je lève la main. J'ai de la misère. Moi, là,
je lève la main aussi.
C'est un défi de santé mentale pour tout le monde présentement. Là.
Fait que ce qu'il faut, c'est pas de la rhétorique incendiaire. Ce qu'il faut, c'est de calmer le jeu, puis c'est d'essayer de donner des petits biscuits à tout le monde pour que tout le monde se calme. C'est-à-dire que oui... T'as raison, telle affaire, ça n'a pas d'allure, mais telle affaire aussi, ça n'a pas d'allure. Fait que si on commence ça, on finit plus. Là, faut trouver une autre façon de se jaser, puis il faut trouver une autre façon de voir les choses. Puis ceux qui avaient encore, les plus extrêmes qui avaient encore un rêve aujourd'hui, ça allait être la nouvelle date, c'est le 4 mars en passant.
Ah, c'est le 4 mars.
Ouais, selon les Tadros.
C'est le calendrier Maya, ça? Okay. Ou...
C'est le calendrier Tadros.
OK, c'est de même.
Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive le 4 mars. Probablement la même chose qu'aujourd'hui. Là,
mais bon. Mais c'est tout ce qui va faire du bien pour adoucir l'ambiance un peu, Nico, là?
Ben, juste son départ, ça va déjà
faire du bien. OK, mais dans nos vies ici, là, au Québec, mettons, là, juste se revoir en personne, ça va faire du bien. Juste de recommencer à avoir des contacts humains, à se parler pour vrai en personne au lieu de s'insulter. Pas mal plus facile de s'insulter sur les réseaux sociaux, par le web, qu'en personne sur le trottoir ou dans un commerce, là. On s'entend-tu? Je pense que le retour du contact... Puis j'espère tellement... J'écoutais Sylvain parler de ça hier, il avait raison. J'espère tellement qu'on va retomber dans des années folles. Comme après la Première Guerre mondiale. Tu sais, beaucoup de parties, beaucoup de plaisir dans la vie. On dépense... J'espère tellement qu'on va tomber d'une période comme ça, après la période noire qu'on traverse encore, qui a été teinté par un président toxique.
Faites ici. L'amour, pas la guerre. Là.
Exactement ça. Puis c'est des cycles. Parce qu'après la période folle des années 20, il y a eu la Grande Dépression. Là, après ça, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont retombés dans des années folles après la Deuxième Guerre mondiale aussi.
On va être dû pour un méchant high.
On va être dû pour un high. Faut retomber, faut recréer les années folles. Hein, comment tu dis, Nico?
Tout le monde a SQDC.
Non, mais c'est qu'on... Non, ça, on voudra pas s'engourdir. Au contraire, on va
les vivre.
Ça va être euphorique.
Exact.
Et d'ailleurs, moi, je veux parler. Je pense qu'on lui parle demain à la sexologue Sylvie Lavallée.
Absolument.
Je suis vraiment curieux, les gars, de savoir, d'un point de vue de société, là, qu'est-ce qui va changer quand on va revenir à la normale? L'urgence de vivre. Il y a des gens là qui se sentent comme des lions en cage depuis un an, juste au niveau des relations interpersonnelles, là, et qui vont vouloir profiter de la vie à 100 000 à l'heure. Combien de couples vont péter après la pandémie parce qu'ils vont s'être tapés sur les nerfs et qu'ils vont dire « Hey, j'ai juste une vie à vivre, là. Moi, je vais en profiter, je resterai pas malheureux chez nous. » Je sens que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose.
Mais ça peut être en couple, en famille aussi. On voyage plus.
Ben oui.
On va plus au resto. On fait des plus gros parties de hockey. Ça peut être plein. J'ai plein de plans, moi. J'ai des plans.
Ouais, hey, moi, cet été, là, je vais avoir 40 ans au mois d'août.
Oh boy, il faut qu'on soit présentiel.
Je sais pas où on va être rendu où, mais autant que ça fait une couple d'années que j'anticipe la quarantaine, j'ai pas envie de franchir ce pas-là.
C'est pas si pire, tu vas voir.
Autant que là, j'aurais envie de dire, tu sais, j'invite 100 personnes chez nous, on fait un beach party au mois
d'août. Vas-tu m'inviter? Moi puis Nico, on va-tu être invités?
Oui, oui.
J'espère.
Ça va être au sommet, au top de la liste.
T'arrêtes pas de nous parler de la Rive-Sud, là, que c'est donc beau, mais tu nous as pas invités chez vous encore.
Mais je peux pas.
On est même pas allé dans ton spa encore, Trudeau. OK. Il est 13h06. Assez de niaiseries pour l'instant. D'autres niaiseries après la pause.